Spotkania europejskie.
Rozumiem tę Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Pour les uns, il va relancer la croissance et donc l'emploi. Pour les autres, il est l'horreur absolue. Le TTIP ou encore le TAFTA, c'est-à-dire le traité transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, risque dans les années à venir de changer la vie des Européens, même s'ils n'en sont guère conscients. Par exemple, allons-nous manger des poulets chlorés, nourris aux OGM à la mode américaine? En cas de différend, les multinationales vont-elles pouvoir attaquer juridiquement les États pourtant souverains? Les normes sociales vont-elles être revues inexorablement à la baisse? La Commission européenne, qui négocie au nom des 28 États membres de l'Union européenne, estime que le traité transatlantique permettrait une croissance supplémentaire comprise entre 0,5 et 1% d'ici 2027. Au niveau des citoyens, cela se traduirait, toujours au conditionnel, pour une famille de 4 personnes par un revenu supplémentaire de 5 euros par an, autrement dit pas grand-chose. La Commission européenne espère que le dossier sera bouclé en 2016. Pour l'instant, les négociations sont conduites dans une grande opacité et le Parlement européen a décidé de ne pas attendre la fin des négociations sur cet accord. Le mois prochain, lors d'une session plénière, les eurodéputés donneront un premier avis sur ce traité transatlantique. Nous sommes à Bruxelles, dans un studio du Parlement européen, et quelques eurodéputés ont accepté de bien vouloir nous éclairer sur ce traité transatlantique qui reste encore grandement mystérieux. Je vous les présente. Guillaume Balaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé français, socialiste, groupe PSE, Parti Socialiste Européen. Gérard Desprez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé belge du groupe libéral-démocrate.
Je suis plus démocrate que libéral.
Et si vous étiez un eurodéputé français, vous siégeriez à côté du Modem?
Je suis apparenté Modem, oui.
De François Bayrou. Yannick Jadot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé français, groupe Europe Écologie Les Verts. Et Patrick Le Yarrick, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé Front de Gauche, hein, même si le groupe où vous siégez, c'est le groupe de...
Gauche Unitaire Européenne.
Gauche Unitaire Européenne. Et vous êtes par ailleurs le directeur du quotidien L'Humanité. Un grand absent autour de la table, il n'y a pas de représentant du PPE qui regroupe les droites européennes et en France représentées par l'UMP. Le PPE est pourtant le groupe le plus important au Parlement européen, 221 députés, mais il n'a pas réussi, pu trouver un représentant d'eurodéputés pour nous donner le point de vue de l'UMP sur ce traité. On ne peut que le regretter. Les échanges entre l'Europe et les États-Unis représentent environ 40% du commerce mondial. Ce ne sont pas les droits de douane déjà très faibles qui les limitent, ce sont les barrières non tarifaires, autrement dit les normes. Par exemple, en termes de sécurité automobile, les normes ne sont pas les mêmes de chaque côté de l'Atlantique. L'un des objectifs du traité transatlantique est d'harmoniser ces normes, vers le haut ou vers le bas, là est bien sûr la question. Autre point important, les échanges, c'est bien sûr du commerce, mais c'est aussi des investissements américains en Europe et européens aux États-Unis, avec parfois des litiges, alors qui doit les arbitrer? Le traité transatlantique prévoit des cours d'arbitrage privés et c'est un énorme point de blocage pour les négociateurs et les parlementaires européens. Alors, j'ai envie de vous demander aux uns et aux autres, la genèse de ce traité transatlantique, c'est de l'économie ou de l'idéologie, Gérard Desprez?
Il y a toujours dans toutes les initiatives un peu des deux. Donc, si vous aviez à la tête des États-Unis et à la tête de l'Union européenne des gens de la GUE, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il y aurait un traité qui serait en préparation. Donc, il y a aussi une dimension politique dans ce qui est préparé pour l'instant. Ce sont, pour l'essentiel, ceux qui ont donné le mandat de négociation à l'Union européenne et ceux qui en sont les partisans aux États-Unis. Ce sont des gens qui croient dans le libre marché, dans la liberté des échanges et donc, d'une manière générale, dans le caractère positif d'un accroissement du commerce international.
Yannick Jadot, de l'idéologie, de l'économie, du bon sens?
Tout est dans ce traité. Tout est dans ce traité. C'est un traité géopolitique. Mettre les États-Unis et l'Europe ensemble dans le cadre d'un grand marché commun, c'est évidemment de la politique. Considérer, comme vous l'avez dit, que des entreprises peuvent attaquer des États, c'est de la politique. Définir ensemble avec les États-Unis ou chercher ensemble à harmoniser nos normes, quand on sait à quel point les modèles parfois peuvent être différents sur les services publics, sur les données privées, sur le principe de précaution, l'éducation, sur la culture, sur tellement de sujets, c'est évidemment faire de la politique. Après, il y a le discours qui est tenu, le paquet communication autour du traité transatlantique, et il y a la réalité de cette négociation. Que nous disent les promoteurs du traité, ça va amener de la croissance, vous le soulignez. Dans l'option la plus optimiste des modèles qui sont utilisés, c'est 0,03% de gain de croissance par an. 0,03%. Une autre étude américaine nous dit, au contraire, ça va détruire 600 000 emplois en Europe. On nous dit, l'enjeu, c'est l'alliance entre l'Europe et les États-Unis, notamment vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de ce monde émergent qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas potentiellement pas les mêmes normes. Est-ce que nous discutons du climat ? Non. On discute d'importer en Europe du gaz de schiste américain. Est-ce qu'on discute de l'Organisation internationale du travail et des droits sociaux ? Non. Est-ce qu'on discute de la lutte contre les paradis fiscaux ? Non. Est-ce qu'on discute de la supervision bancaire et financière pour éviter une autre catastrophe financière ? Non. Vous voyez, est-ce qu'on discute du terrorisme ? Non. Est-ce qu'on discute des taux de change ? On sait bien que l'enjeu lourd de la compétitivité entre l'Europe et les États-Unis, c'est le jeu des changes. Même ça n'est pas l'agenda. Donc en fait, on est sur un agenda qui vise effectivement à harmoniser les normes, mais à harmoniser les normes qui sont des choix de société, les services publics, la protection des données, plein de choses, ce sont des choix de société, et ça se fait malheureusement aujourd'hui sans les citoyens, largement au bénéfice d'un certain nombre de multinationales qui ont réussi à faire croire que leur bien-être correspond à l'intérêt général.
Patrick Luaric, cette idée de traité transatlantique, c'est une idée qui vient des Américains ou des Européens ? Qui était le premier demandeur ?
Ça vient des multinationales et du monde des affaires. Et c'est la géopolitique au sens où il y a des thèses à la CIA et dans beaucoup de milieux réactionnaires européens qui considèrent que l'occidentalisme perd du terrain. Il y a un autre enjeu qui est celui de, dans une période de crise et d'austérité renforcée partout, c'est d'ouvrir des marchés dans des endroits où, prétendument, on pourra vendre demain. Donc on va aller vers une compétition, vers une guerre économique de plus en plus violente. Il y a ces raisons-là qu'on doit combiner d'ailleurs pour la géopolitique avec le traité transpacifique, c'est-à-dire les États-Unis font le même traité avec un certain nombre de pays asiatiques.
Une douzaine.
Sans la Chine. Et un autre traité qui se discute dans les caves de l'ambassade d'Australie à Genève depuis un moment, qu'on appelle un nouveau traité sur les services, après que l'accord général sur les services soit tombé, qu'on appelle le traité TISA, où je crois 54 pays participent, mais dans lequel on retrouve les mêmes ingrédients, la même logique.
Alors, Guillaume Ballas, le libre-échange entre l'Europe d'un côté et les États-Unis de l'autre, il existe déjà.
Oui, moi je pense que tout a été dit là, hein, sur les raisons profondes de ce traité et à la fois la dimension économique qui est voulue par certains et politique. J'aimerais rajouter un élément. Comme nous sommes en crise depuis 2008, un certain nombre de pays, un certain nombre de forces aujourd'hui se disent qu'il faut disposer de ce qu'on appelle un relais de croissance. Le relais de croissance, c'est l'idée qu'en ouvrant en effet de nouveaux marchés, eh bien on va pouvoir trouver un relais de croissance. L'Europe en elle-même n'est plus un relais de croissance. J'aimerais attirer votre attention sur ce sujet. Si il y a la conviction profonde, je pense à M. Renzi par exemple ou à d'autres, que l'Europe n'est plus un relais de croissance en elle-même, alors cela signera la fin de l'aventure européenne de manière mécanique. Car si des pays se disent que aujourd'hui l'Europe n'est pas en capacité de répondre aux questions économiques qui sont posées par les populations et par les besoins, alors de même, ces peuples décideront de dire qu'il faut faire autre chose. C'est pour ça que ce traité, à mon avis, pose une question qui est bien plus essentielle qu'une question économique. Aucune étude n'a démontré la pertinence économique de ce traité. C'est est-ce que l'Union européenne veut se survivre à elle-même et se donner un destin propre, ou est-ce que, en effet, c'est la théorie occidentaliste qui prend le pas et qu'il faudrait se regrouper avec les États-Unis et le Canada face au monde dangereux qui émerge. Franchement, signer en catimini la fin de l'Union européenne, ça demande un peu des débats publics.
Alors, on sent bien la complexité et les enjeux de ce traité transatlantique. Ce qui frappe et choque les citoyens et les Européens, et peut-être aussi les Américains de l'autre côté de l'Atlantique, c'est l'opacité, le mystère dans lequel tout ça se produit, Gérard Després.
Oui, mais l'affaire a mal démarré. Je veux dire, quand vous regardez le processus, en particulier du côté européen, le mandat qui a été donné par le Conseil des ministres européens à la Commission pour négocier avec les États-Unis, au début, n'était pas public, on ne le connaissait pas, donc c'est quand même extraordinaire. Et pour un enjeu
pour
de
le moins. Ouais.
Et donc, je dénonce ça. Depuis lors, ça a été relativement corrigé, mais de encore maintenant, si vous voulez connaître l'état réel des négociations, vous devez suivre des procédures en tant que parlementaire.
Il faut être eurodéputé, enfin, oui, citoyen entrer, normal comme
entrer
moi.
Dans c'est un non, peu... non, non. Faut pas être eurodéputé. Faut faire partie du mini-club des 15 eurodéputés.
Il y a une possibilité, il y a une possibilité d'y aller si on justifie de son intérêt. Mais ça n'enlève rien à mon argumentation qui est de dire, cette espèce de culture du secret a jeté une sorte de discrédit sur toute l'opération, comme s'il s'agissait d'un mauvais coup qu'on était occupé à préparer derrière les rideaux contre les peuples et américains et européens. Donc, je pense que sur le plan de la procédure, il y a une faute et que malheureusement, cette faute entache tout le processus. Donc, il faut revenir à beaucoup plus de clarté. Deux réflexions, si vous voulez. La première, un traité commercial. L'Europe est quand même la plus grande puissance commerciale du monde et une partie importante du travail que nous avons en Europe vient aussi des produits que nous vendons à d'autres pays. Donc, quand vous dites que pour l'Europe, signer un traité en matière commerciale, ça peut présenter des risques, je mitige quand même un tout petit peu compte tenu de la réalité. Deux, moi je ne crois en rien aux prévisions en matière de croissance que ce traité. D'abord, on n'en connaît pas le résultat exact. On ne sait pas ce qui va être dans ce traité en termes techniques. Quelles vont être les procédures qui vont être mises en place, par exemple, pour la coopération des normes dans le futur, auquel secteur ça va s'appliquer. Donc, je dirais, avant de faire une inflation de la panique, moi je suis pour la poursuite de la négociation dans la transparence, mais je suis incapable de vous dire aujourd'hui, parce que je ne le connais pas, si je voterai ou non ce traité quand je devrais le ratifier, parce que j'ai des lignes rouges, et si ces lignes rouges sont franchies, mais je ne le voterai pas. Je suis d'accord de débattre sur des choses et des peurs qui sont réelles, mais pas sur une panique généralisée. Évitons l'inflation de la panique. Et pour l'instant, je pense que vous y cédez, si je peux parler.
D'accord. C'est intéressant de reprendre point par point. Vous parlez de des services publics.
Oui.
J'ai évoqué le sujet de la santé. L'assurance maladie, vous le mettez dans le service public ou pas?
Mais ça peut être mis dans le service public.
Eh ben non.
Si les pays.
Mais je suis
désolé.
Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Excusez-moi.
Attendez, la négociation n'est pas conclue. Vous racontez des trucs.
Mais que l'accord soit pas conclu. Mais enfin, je suis désolé. Il y a quand même des négociations. Il y a une négociation qui s'est passée avec le Canada. Il y a des négociations de libre-échange. Excusez-moi. Mais elles répondent quand même à un canevas de négociations. Elles répondent à des intérêts. Elles répondent à un système aujourd'hui normatif libéral qui dit un certain nombre de choses. Les services d'assurance maladie ne sont pas des services de santé, ce sont des services financiers, ce sont des services d'assurance. Quand vous discutez avec des collègues au Canada, je suis désolé, il y a un accord qui a été conclu, dans un certain nombre de provinces, ils avaient privatisé les systèmes d'assurance maladie. Et ils disent aujourd'hui, dans le traité, on ne pourra plus revenir sur cette privatisation. Vous me parlez des données personnelles.
Yannick Jadot, il faut préciser qu'il y a déjà un traité qui a été conclu entre les Européens d'un côté et les Canadiens de l'autre.
Il y a une négociation qui est terminée.
Très aboutie.
Et qui est, la négociation est dite terminée. Donc la Commission européenne avait un mandat donné par les gouvernements. La Commission européenne ne travaille pas seule. C'est les gouvernements qui donnent le mandat avec l'administration canadienne, avec le gouvernement canadien.
Ça donne une idée de ce qui pourrait arriver.
C'est évidemment l'embryon du traité transatlantique. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez de la santé. Qu'est-ce qu'a obtenu l'Europe dont elle est très fière? C'est le renforcement du brevet des médicaments parce que nous avons des firmes pharmaceutiques très puissantes en Europe. Mais ça se fait au détriment de la politique de médicaments génériques qui a été développée au Canada. Et même le Premier ministre canadien a dit « Je compenserai pour les systèmes d'assurance maladie » le renchérissement du coût des médicaments. Donc vous voyez bien que ça touche à la santé. Quand j'ai la Commission européenne qui, depuis des mois aujourd'hui, déconstruit totalement la force européenne contre les OGM, sur les autorisations, sur l'évaluation, qu'elle met en place un processus de renationalisation où les États vont devoir être face aux multinationales. Quand la Commission européenne retarde sa réglementation, son renforcement sur les perturbateurs endocriniens parce que les États-Unis ne veulent pas entendre parler de législation sur les perturbateurs endocriniens qui est un souci de santé aujourd'hui majeur. Quand la Commission européenne, juste après l'accord avec le Canada, a décidé que finalement, les carburants qui viennent du Canada issus des sables bitumineux ne sont pas un problème, alors que jusqu'à maintenant, on voulait les sanctionner parce qu'ils sont très polluants. Vous voyez bien qu'on remet en cause un certain nombre d'évolutions, un certain nombre de principes ou de valeurs qui sont aujourd'hui dans le cadre européen, qui est de faire privilégier. On essaye, en tout cas, la santé, l'environnement, le social, sur les intérêts économiques.
Alors, c'était Yannick Jadot qu'on vient d'entendre, avec, en désaccord avec Gérard Desprez, Guillaume Balas, Parti Socialiste. On sent bien que un accord, c'est je donne et je prends en échange. Est-ce que les Européens comptent-ils à perdre dans cet accord, notamment sur les normes? Les normes européennes sont globalement plus exigeantes que les normes américaines, à peu près dans tous les domaines. Non, on ne peut pas systématiquement, mais globalement.
Moi, j'ai écouté récemment Pascal Lamy sur ce sujet, l'ancien patron de l'OMC, qui est favorable au TTIP. Mais vous allez voir dans quelles conditions il le disait. Il disait, pour arriver à une convergence sur les normes, qui soit une convergence utile, il faut 30 ans de négociation. C'est-à-dire que la faribole, pour reprendre votre expression que j'aime bien, d'une négociation en un an, en deux ans, en trois ans, etc., ne tient absolument pas, y compris pour les partisans du TTIP réel. Pourquoi ? Parce que, est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire que de négocier domaine par domaine des normes, non seulement en termes juridiques, mais ensuite en termes techniques, leur transcription dans les droits nationaux, etc. C'est un travail absolument énorme. Donc, le problème pour l'Europe, il est très simple. C'est que rien ne garantit aujourd'hui que c'est à la norme supérieure qu'on ira. Qu'est-ce qui nous dit ça ? Je veux dire, ça n'a jamais été écrit nulle part. Et les Américains ont tout intérêt aujourd'hui à vouloir, au contraire, abaisser un certain nombre de normes, je pense notamment dans le domaine écologique, ça a été dit, mais aussi, bien évidemment, dans le domaine social, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être dominants. C'est très important parce que, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas l'impression, je ne suis pas allé aux États-Unis pour en discuter, mais j'ai discuté avec quelques Américains, je n'ai pas l'impression que les Américains soient si demandeurs, je parle bien là des politiques américains. Qu'il y a des multinationales qui soient très demandeuses, oui, mais j'ai surtout l'impression que c'est l'Europe qui court après. Et ça me terrifie dans le rapport de force, y compris de négociation. La Commission, un certain nombre de pays. Et ça me terrifie dans le rapport de force de négociation. J'ai l'impression qu'il y a, une peur, panique aujourd'hui de la discussion transpacifique, et que donc on est là en train de courir derrière, et qu'en courant derrière de cette manière-là, on est dans un rapport de force qui est très médiocre, notamment sur la question des normes.
Alors Patrick Yoranik, est-ce qu'on court derrière les Américains? Cette question des normes, est-ce qu'on a tout à y perdre? Alors par exemple, je prends un argument des défenseurs du TTIP, on dit par exemple les petites PME vont pouvoir exporter plus facilement aux États-Unis, les agriculteurs français, puisqu'on est sur Radio France Internationale, vont pouvoir vendre du vin et des fromages plus facilement aux États-Unis, faut-il le croire?
L'expérience montre le contraire. Tout montre le contraire aujourd'hui. Et sur l'enjeu des normes, on n'est pas dans une discussion dans un parlement unique qui discuterait du bien-être des populations. On est dans un autre endroit où vous demandiez tout à l'heure quelle était l'origine. L'origine, c'est les industriels des deux côtés de l'Atlantique qui ont demandé ça. Et ce ne sont pas les peuples, ce ne sont pas les organisations syndicales. Au départ, c'est même pas les gouvernements. On pourrait discuter d'accords de coopération. Monsieur disait tout à l'heure, si la gauche unitaire européenne ne ferait pas, si, on peut faire des traités de coopération. Mais des traités de coopération qui visent le bien-être humain, qui visent le développement des services publics, qui visent le renforcement des normes écologiques, des normes sanitaires, les normes sociales en général. C'est pas ce qui est en train de se produire. Et donc, dans le traité avec le Canada, on a fait miroiter qu'on leur emmènerait un peu de Roquefort, mais contre ces quelques morceaux de Roquefort, combien devrons-nous accepter d'abaissement d'un certain nombre de droits et accepter d'importation, notamment en viande bovine. Aujourd'hui, on va liquider une grande région comme toute la grande région Massif Central en France. Elle risque d'être liquidée du fait de l'importation de la viande bovine. Et on pourrait comme ça prendre une multitude d'exemples. Donc non, on ne va pas profiter de ça. Les multinationales, ceux qui font du commerce, oui, parce que c'est fait uniquement pour cela, vont en profiter, pas nous.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps des infos, avant de retrouver nos invités, de reprendre notre débat autour du traité transatlantique qui pourrait changer d'avis des Européens dans quelques années. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, rebonsoir. Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Pour les uns, il va relancer la croissance et donc l'emploi. Pour les autres, il est l'horreur absolue. Le TTIP ou encore le TAFTA, c'est-à-dire le traité transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, risque dans les années à venir de changer la vie des Européens, même s'ils n'en sont guère conscients. Je vous représente rapidement nos invités. Guillaume Ballas, eurodéputé socialiste. Gérard Després, eurodéputé belge, groupe libéral. Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Et Patrick Le Héric, eurodéputé Front de Gauche. Et encore une fois, je déplore l'absence d'un représentant du PPE, le Parti Populaire Européen, représenté en France par l'UMP. La Commission Européenne, qui négocie au nom des 28 États membres de l'Union Européenne, estime que le traité transatlantique permettrait une croissance supplémentaire comprise entre 0,5 et 1% d'ici 2027. Quant au niveau des citoyens, cela se traduirait pour une famille de 4 personnes par un revenu supplémentaire de 545 euros par an. Autrement dit, pas grand-chose. Alors, il y a le commerce et puis il y a les investissements que les uns font chez les autres. Et de temps en temps, il y a des litiges. Et pour régler les litiges, jusqu'alors il y avait les tribunaux nationaux. Ce qu'imagine le traité transatlantique, c'est de faire appel à des cours d'arbitrage privés. Et c'est un énorme point de blocage. On l'entend sur les bancs du Parlement européen, mais les observateurs. Alors, Gérard Després, pourquoi faire référence à des tribunaux d'arbitrage privés, alors qu'il existe de chaque côté de l'Atlantique des tribunaux nationaux qui fonctionnent très bien? De chaque côté de l'Atlantique, on vit en démocratie.
Bien, un, c'est pas moi qui l'ai demandé. Deux, c'est pas non plus mon parti.
Gérard Després, allez-le.
C'est la partie américaine qui met ça. Mais bon, quel est ce mode de règlement des conflits? Savez-vous que dans le monde actuellement, il y a 1400 accords commerciaux qui ont ce mode de règlement des conflits entre les investisseurs et les États? 1400. Mon pays, mon petit pays, à côté, à côté de la Grande France, en a 84. La France, je pense qu'elle en a plus de 100. Bien. Donc il n'y a pas une invention perverse qui est né dans la tête d'un commissaire européen ou de je ne sais qui. Non, c'est une pratique. Est-ce que cette pratique est bonne? Ma réponse est non. Et donc, est-ce que nous devons tout faire dans le cadre de ces négociations pour avoir un autre mode de règlement des conflits? Oui. Au départ, du côté européen, le négociateur s'est inscrit d'une manière, je dirais, assez commode, dans la proposition américaine. On voit maintenant ces derniers temps que la Commission européenne, elle a déjà bougé, elle commence à faire de nouvelles propositions en disant ça ne peut pas être des juges choisis chaque fois, en particulier dans les grands bureaux d'avocats internationaux qui donnent toujours satisfaction aux Américains, etc. Parce que le grand problème de ce mode de règlement des conflits, c'est que ce 11 mai, écoutez bien ceci, le sous-secrétaire d'État américain au commerce, Stefan Zelnick, il a rejeté catégoriquement la nouvelle proposition qui était avancée par la commissaire européenne, Cecilia Malmström. Et en disant quoi? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ce système de règlement des conflits, il existe aux États-Unis, il y a eu très peu de cas, et d'ailleurs, dans leur histoire, les États-Unis n'ont jamais perdu un procès dans le cadre d'un ISDS. Ça veut dire que les Américains négocient un mécanisme de règlement des conflits qui est à l'évidence à leur avantage. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons tous raison de dire ce qui est prévu actuellement, nous ne l'accepterons pas. Et moi, je suis en faveur d'un tribunal international à mettre sur pied, ou je suis en faveur d'une modalité d'organisation par les systèmes juridiques et juridictionnels des États membres, mais pas par le mécanisme qui est prévu actuellement.
C'est court d'arbitrage privé, on les appelle aussi ISDS dans l'acronyme anglais, c'est une ligne rouge infranchissable pour chacun d'entre vous autour de la table. Yannick Jadot pour les Verts.
Oui, bien sûr, parce que ce dispositif est à l'image de ce qu'on veut faire avec le traité transatlantique. Ce mécanisme a été construit d'abord dans les traités d'investissement entre les pays du Nord et des pays qui n'avaient pas de système juridique solide ou des États défaillants. Donc c'est la très très grande majorité de ces traités, c'est avec des pays du Sud ou avec des pays de l'Est, juste après 1989 ou la chute du communisme. Il n'y a pas aujourd'hui d'accord d'investissement entre des vieux membres de l'Europe et les États-Unis, par exemple. Et au fond, on a vu ces dernières années une dérive extraordinaire de ces mécanismes qui étaient encore une fois d'abord liés à des systèmes défaillants. Ils ont été totalement détournés par des firmes multinationales. On connaît les grands cas qui montrent la perversité du système. Philip Morris, le cigarettier, attaque l'État australien et l'État uruguayen parce qu'ils ont mis en place le paquet neutre et que Philip Morris considère qu'ils vont faire beaucoup moins d'argent en vendant des cigarettes. Donc il demande au gouvernement australien de rembourser les milliards de profits non réalisés. Vous avez une entreprise suédoise qui s'appelle Vattenfall, le groupe énergétique suédois, qui attaque l'Allemagne, lui demande 4,7 milliards d'euros de dédommagement parce que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Et à chaque fois, ce sont les contribuables qui payent. Donc on a un système totalement pervers, qui est privé, qui n'a pas de jurisprudence, qui est parallèle, qui n'est jamais fait par des juges. Ce sont des avocats d'affaires qui instruisent et décident. Un jour, ils sont arbitres, le lendemain, ils sont avocats de l'entreprise. Il y en a une quinzaine qui a réglé 60% des cas. Et Madame Malmström, elle veut réduire un peu les conflits d'intérêts. La commissaire libérale au commerce, qui succède à un commissaire belge libéral au commerce, elle dit, on va réduire un peu les conflits d'intérêts, tout ça. Mais un avocat d'affaires, ça n'est jamais un juge. L'idée que des entreprises, encore une fois, puissent jouer à la fois devant les tribunaux, mais surtout en amont de ces conflits, pour dire aux États, si vous osez faire ça, on ira devant un tribunal et ça pourra coûter des millions, des centaines de millions, voire des milliards à une ville, à une collectivité régionale, à un État ou au niveau fédéral. C'est une privatisation de la justice au service des multinationales. C'est inacceptable.
Est-ce qu'on peut amender les tribunaux d'arbitrage privé en les rendant internationaux
Certains, en effet, sont en train de réfléchir à une proposition alternative à l'ISDS qui serait des cours arbitrales publics, j'allais dire. C'est-à-dire avec un système, avec des juges qui ne seraient pas des avocats. Je reste pour ma part extrêmement réservé parce que je n'arrive pas bien à comprendre en quoi des juges publics seraient supérieurs aux juges publics qui existent déjà, c'est-à-dire et aux États-Unis et en Europe où nous avons des systèmes qui fonctionnent. Donc je me pose toujours la question de pourquoi y a-t-il encore cette demande d'avoir un régime d'exception en termes d'arbitrage sur les conflits commerciaux. Je n'en trouve pas la raison autre que, quel que soit le juge ou avocat, ce qui sera mis en place, eh bien la pression des multinationales sera quand même beaucoup plus efficace. Quand vous êtes appuyé à un peuple, quand vous êtes appuyé à une démocratie, quand vous êtes appuyé à une opinion publique, vous avez un rapport de force qui est quand même fort. Quand vous êtes suspendu en l'air, que personne ne fait ce que vous faites, qu'il faut que ce soit des ONG qui aillent chercher les informations, je pense que les multinationales bardées d'avocats auront beaucoup plus de moyens que nombre des État, notamment pour se défendre. Il faut le savoir, ça. Parce que quand vous allez avoir une multinationale qui va assigner un État européen, par exemple un petit État européen, devant une cour même publique, comment ce petit État européen va pouvoir financer sa défense face aux monstrueux cabinets d'avocats qui vont débarquer pour aller défendre les multinationales? C'est, à mon avis, une fausse bonne idée, c'est-à-dire de faire des cours publics en alternative à l'ISDS. Pour ma part, je crois qu'il faut tout simplement en rester à l'idée qu'il y a des justices qui fonctionnent et que celles-ci suffisent bien.
Patrick Lurie, j'imagine que c'est aussi votre avis, Front de Gauche?
C'est-à-dire, le fond de l'affaire, c'est que on protège l'investisseur, c'est-à-dire la société multinationale, parce que ce n'est pas ma voisine qui va investir dans un autre pays. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. On fait une justice pour les investisseurs. Et on invente, en quelque sorte, un nouveau droit, un droit privé des affaires, contre les droits humains, contre les droits reconnus à l'Organisation des Nations Unies. Donc le droit des affaires remplacerait peu à peu les droits humains, avec des conséquences terribles, parce que on va mettre en cause petit à petit la souveraineté des peuples, et la souveraineté des parlements et même des gouvernements à légiférer. Un gouvernement qui veut mettre en place un système de protection sociale ou qui veut améliorer son système de protection sociale, qui veut mettre un salaire minimum dès lors qu'il ne l'a pas, il peut demain se faire attaquer par cet investisseur qui est venu investir dans son pays, qui est une multinationale européenne, japonaise ou américaine, parce que les conditions changent, les conditions de production, les conditions de réalisation, donc de son chiffre d'affaires, changent. Mais à partir de ce moment-là, peu ou prou dans 15, 20, 30 ans, un Parlement, quel qu'il soit, ne servira plus à rien, puisque l'Assemblée parlementaire dira « Je ne peux pas prendre telle décision parce qu'il y a une jurisprudence désormais qui fait que de toute façon, l'État sera condamné. » Donc on voit bien que là, on est en train de changer de monde, de changer de civilisation, et petit à petit, nous avons un capitalisme de plus en plus dominant et qui est en train de faire le droit pour lui et pour lui seul, au détriment des droits humains, des droits d'accès à la santé, du droit environnemental et d'une multitude de législations, de droits internationaux qui existent aujourd'hui.
Une fois de plus, je regarde l'absence autour de cette table d'un représentant du Parti Populaire Européen, oui, c'est-à-dire de l'UMP, en France, car à vous écouter, vous êtes tous contre l'idée de cette... Alors, à des degrés divers.
Il y a des groupes qui soutiennent.
Oui, non, mais le
BPE... Moi, je peux vous dire, dans Yannick la Commission Jadot. Du commerce international, le groupe des libéraux soutient le dispositif ISDS réformé. Encore une fois, on peut... L'idée de faire qu'il y ait moins de conflits d'intérêts, qu'il y ait moins de qu'il y ait plus de transparence, c'est une chose. Mais on voit bien que le principe est vicié. Donc, il y a des groupes politiques. Le groupe du PPE, vous avez raison. Le groupe de la droite britannique aussi soutient. Donc, le débat est loin d'être tranché en ce moment au niveau du Parlement. Il y a probablement, dans ce qui va se décider au mois de juin, quand le Parlement votera, y compris sur ce point-là, une majorité courte contre ou une majorité courte en faveur de ces dispositifs. Mais encore une fois, tous les groupes, c'est pas ce qui apparaît comme du bon sens aujourd'hui, qui est de dire on peut quand même pas privatiser une partie de la justice dans un accord qui regroupe 80% des multinationales du monde. Et on a des systèmes juridiques qui fonctionnent, les entreprises peuvent porter plainte contre des États devant des juridictions nationales, ça existe. Mais au fond, il y a quand même une machine qui s'est mise en route et qui nous dit qu'au fond, si on veut des investissements, il faut ça, alors que pas une étude de l'OCDE, de la Banque mondiale, a prouvé que ce dispositif pervers renforçait même les flux d'investissement. Mmh. Au-delà de leur impact, il n'y a pas de corrélation entre ces dispositifs et l'importance des investissements.
Parce qu'il existait à l'Organisation mondiale du commerce un mécanisme, mais qui d'ailleurs n'avait pas notre soutien. Mais là, on va bien plus loin que ce qu'il y a dans l'OMC, bien plus loin.
Gérard Depré, pour les libéraux, est-ce que ces tribunaux d'arbitrage privés remettent en cause, ou peuvent remettre en cause à terme, la souveraineté des États ?
Remettre en cause la souveraineté des États, ça dépend de ce qui leur sera ouvert comme possibilité d'intervention par le traité. Je reviens toujours à cela. Tant que vous n'avez pas vu le traité, vous ne pouvez pas vous prononcer définitivement. J'ai dit que j'étais contre le système tel qu'il existe, tel qu'il est prévu du côté américain. J'ai noté que la commissaire européenne ouvre une porte qui ne satisfait pas un certain nombre de partenaires. Et j'en conviens, ça ne résout pas tous les problèmes. Mais elle a déjà bougé, elle a ouvert une porte.
Un petit lifting.
Attendez, un petit, oui, mais c'est pas tellement ça qui m'importe.
Pour faire accepter.
Et je veux réagir contre une autre intervention. Elle ouvre une porte vers une cour internationale. Et alors, dire que les cours internationales, ça prive les États de souveraineté, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'abord parce qu'on ne peut les créer que par un acte volontairement consenti de la part des parlements nationaux légitimes. Quand vous avez une Cour européenne des droits de l'homme, bien, elle a été démocratiquement approuvée et elle juge en toute impartialité.
Ou la Cour pénale internationale.
Vous avez la Cour pénale internationale. Si vous avez une juridiction internationale qui a, avec des juges qui ont été choisis selon des procédures sur lesquelles on se met d'accord, dont on définit les règles de procédure, etc., je ne vois pas pourquoi on serait contre un mécanisme comme celui-là. Parce que je ne suis pas sûr que ça donnerait davantage de garanties, si on le considère globalement, qu'une juridiction nationale qui pourrait être influencée à un certain moment par des considérations sur lesquelles nous n'avons pas de prise maintenant que nous n'avons pas imaginé.
C'est le droit de l'investisseur,
je ne vous ai pas dit ça.
Non, mais je ne dis pas que vous avez dit ça. Je dis que aujourd'hui, c'est la protection de l'investisseur le plus.
Mais je ne vous ai pas dit ça.
Mais je ne dis pas que vous l'avez dit.
Cour internationale pour le règlement des litiges qui peuvent se produire et dont la nature peut être identifiée dans le traité.
Guillaume Balasson, vous n'avez pas encore entendu sur ce sujet, sur la souveraineté des États à travers ces cours pénales privées. S'il y avait une cour supranationale, est-ce que ça changerait les choses pour le groupe socialiste européen.
Écoutez, on en débattra. Pour l'instant, il faut déjà éliminer l'arbitrage privé. Et on a entre nous des discussions par quoi cela pourrait-il remplacer. Moi, je fais confiance aux justices établies depuis longtemps, sans méconnaître évidemment aussi les dysfonctionnements potentiels. Et inventer, je veux dire, un nouveau système qui aujourd'hui n'offre aucune garantie, j'en vois pas très bien l'utilité. Mais le débat est intéressant. Il y a quand même un élément qu'il faudrait avoir en tête dans tout cela. C'est que moi, je n'arrive pas bien à comprendre comment on peut établir des éléments de droit quand il n'y a pas un contrebalancement par la démocratie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les États-Unis, c'est un pays. Ils ont un État. L'Union européenne, même si on pourrait souhaiter que ça aille beaucoup plus loin, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Comment voulez-vous qu'il y ait un rapport de force favorable pour l'Union européenne dans ce cas-là, puisque nous pouvons tous être, excusez-moi de l'expression triviale, achetés par appartement, et c'est bien ce qui est en train de se passer sur un certain nombre de sujets, pour tel ou tel intérêt propre à chaque État. Et de ce point de vue, moi, je considère que mettre en place une cour internationale, tant que l'Union européenne ne s'est pas renforcée politiquement, avec un Parlement, qui est un Parlement souverain sur un certain nombre de questions, avec une responsabilité de la part de la Commission devant ce Parlement souverain, alors je crois honnêtement que nous serions en très grande difficulté. D'ailleurs, pour terminer là-dessus, je discutais avec un très chaud partisan du traité transatlantique et il n'a pas prononcé une seule fois le mot de démocratie et de souveraineté. Et donc à la fin, je vais simplement me poser la question, mais si jamais ça se met en place, si un peuple, les peuples européens ensemble, ou un peuple européen décidait que ça suffisait et qui voulait soit sortir de ce traité, soit mettre en place des politiques, comme ça a été dit tout à l'heure, qui ne sont pas mécaniquement favorables au libre-échange. Le pourrait-il ? Les traités seraient signés. Il serait dans une difficulté où ça serait lui qui pourrait être en effet traîné devant cette cour internationale, même si elle était publique.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, à Bruxelles, au Parlement européen, nous essayons d'y voir un peu plus clair sur ce traité transatlantique avec Guillaume Balas, eurodéputé socialiste, Gérard Després, eurodéputé belge libéral, Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, et Patrick Le Yarrick, eurodéputé groupe unitaire européen, front de gauche, si je reprends l'appellation française. Alors, on s'en met en tout cas on est dans quelque chose de central sur ces tribunaux d'arbitrage, qui sont essentiels. Les Américains ne signeront jamais ce traité si ces traités d'arbitrage privés n'existe pas. Alors, j'ai envie de vous demander aux uns aux autres, est-ce que ce traité verra le jour un jour ou l'autre, ou est-ce qu'on est en train de discuter pour pas grand-chose, Yannick Jadot ?
Non, on discute à la fois de la régulation de la globalisation, parce qu'au fond, c'est un vrai débat sur c'est quoi la mondialisation. Est-ce qu'on laisse le dumping fiscal, monétaire, environnemental, social, construire une mondialisation dont on sera forcément les victimes, ou est-ce qu'on se met en capacité de réguler, et on régule comment et on régule avec qui ? C'est ça le sujet, et y compris ce que disait Guillaume Balas sur c'est quoi notre projet européen dans cette mondialisation. Mais quand on regarde au fond, même aux États-Unis, le débat naît sur ce dispositif ISDS. Hillary Clinton, dans son livre qu'elle vient de publier, elle est contre le système ISDS. Est-ce que ce sera la prochaine présidente des États-Unis ? On verra. Vous avez au Congrès des représentants qui se mettent contre. Vous avez les syndicats qui sont contre. Vous avez les associations de consommateurs qui sont contre. Vous avez en Allemagne les organisations des PME sont contre. Vous avez le Parlement français, Sénat, Assemblée nationale, a voté contre. Vous avez en Autriche, aux Pays-Bas, dans plein de pays. Vous avez une consultation publique de l'Union, de la Commission européenne. 150 000. On n'avait jamais vu autant de gens participer à une consultation publique sur ce sujet-là extrêmement technique. 97% des réponses. 140 000 réponses sur 150 000. On dit on n'en veut pas. Donc il serait temps que l'Union européenne reconnaisse qu'elle ne peut pas démontrer la nécessité de ce dispositif-là, qu'il est pervers, et donc on fait 100.
Alors, à ce stade de la discussion, j'ai envie de vous demander aux uns aux autres, mais pour les citoyens européens, qu'est-ce que ça va apporter, Gérard Després, ce traité transatlantique, s'il est mis en œuvre, même si vous allez me dire qu'on n'en connaît pas encore toutes les phases et tous les articles ?
Personne n'en sait rien. Objectivement, toutes les évaluations que l'on voit sur les perspectives de croissance, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, personne ne sait si tout ça est fondé, va se produire ou pas. Moi, j'ai l'habitude d'entendre la Commission européenne, chaque fois qu'il y a un nouveau dispositif, on supprime les frontières, ça va créer 7 millions d'emplois. On harmonise les normes. énorme dans le grand marché, 14 millions d'emplois. Si on avait fait tous ces emplois, il faudrait
importer
des dizaines de millions de travailleurs pour remplir les emplois magiques qui auraient été créés par ces millions. Donc, on n'en sait rien du tout. Je suis contre l'inflation, je vous l'ai dit, de la panique que tout ça va mettre en cause le cœur de ce qui est la spécificité européenne en matière culturelle, en matière de protection des données, etc. Je suis radicalement contre ça. Je ne veux pas jouer dans l'inflation de la panique. Ce qui est sûr, et là je rejoins paradoxalement mes interlocuteurs, c'est que je ne suis pas convaincu que le dispositif tel qu'il est prévu maintenant va profiter fondamentalement aux PME. Je vois bien que les grands groupes, aussi bien européens qu'américains, vont tirer profit de cela. Les PME, je n'en suis pas sûr. Est-ce que ça pourra représenter pour les citoyens concrètement? Très objectivement, je suis incapable de l'évaluer maintenant. Alors, mais je ne sais pas à la panique ni à l'euphorie.
On est dans une phase du débat très intéressante. Quel est le primat entre le politique et l'économie? C'est un peu tout ce qui est dit ou non dit dans ce traité transatlantique. Néanmoins, Guillaume Balas, Patrick Huari, le monde change, il y a les Chinois de plus en plus importants. Est-ce que refuser de signer avec les Américains un accord qui n'est pas encore défini, c'est laisser la porte aux Asiatiques et demain aux Chinois de définir ces normes qu'on a du mal, nous, à définir ces normes et cette façon de commercer dans le monde au cours du 21e siècle?
Alors ça, c'est l'argument ultime. Hein, c'est-à-dire, en dernier ressort...
On est presque à la fin de l'émission.
En dernier ressort, vous comprenez, si ça continue, on va être tout seul et tous les autres se seront alliés et imposeront leurs normes, et notamment les Chinois. Et on n'aura même pas donné le rapport de force aux Américains pour pouvoir les contrer. Bon. C'est une manière de voir qui est toujours la même. C'est-à-dire que, au lieu de penser comment nous pouvons devenir plus puissants, comment nous pouvons intégrer mieux l'Union européenne, l'harmoniser fiscalement, comment on peut l'harmoniser du point de vue social, comment on peut la rendre plus démocratique, et donc lui donner le poids suffisant pour être un interlocuteur fiable par rapport à d'autres, on préfère, comme d'habitude, la dilution en disant, en nous diluant avec d'autres, nous allons être plus forts. Très honnêtement, cette démarche a été d'ailleurs celle de la construction européenne pendant longtemps, après la chute du mur de Berlin. Je ne suis pas sûr qu'elle ait donné des résultats absolument spectaculaires sur la force de l'Union aujourd'hui. Donc la question pour moi qui est centrale, c'est une question de priorité et de hiérarchie politique. Est-ce que nous pensons qu'il faut d'abord construire l'Europe, et parce qu'elle est forte, alors elle saura négocier avec d'autres des types d'accords qui ne sont pas forcément des accords de libre-échange, c'était dit tout à l'heure qu'ils peuvent être des accords de coopération, enfin je veux dire, il y a plein d'éventualités qui existent, ou est-ce que nous allons aller dans la fuite en avant de la croissance à court terme qui n'est même pas vérifiée, et donc nous allons laisser filer ce qui pouvait être un facteur d'unité européenne, aujourd'hui abîmé par la divergence des économies que l'on connaît, accroître la divergence de ces économies et tuer le projet européen. C'est pour ça que cette question aujourd'hui du traité transatlantique, pour moi, n'est pas d'abord une question économique. C'est profondément une question politique.
Patrick Lullarigue, Front de Gauche, est-ce que ce traité transatlantique, s'il voyait le jour, mettrait, pour répondre à Guillaume Balas, fin au projet européen?
Ah, je crois, oui. Oui, parce que on n'a pas terminé, paraît-il, le marché unique européen, qu'on est en train de discuter d'un marché unique mondial. Euro-américain.
Et donc mondial.
Et qui, pour le coup, par exemple, sur la question des normes, qui vise à, avec le traité transpacifique, avec l'accord avec le Canada, vise à imposer ces normes-là à l'ensemble du monde. C'est le contraire de ce qui est dit. Et on ne parle pas là du développement de l'Amérique du Sud, on ne parle pas des pays africains, on ne parle pas de certaines zones asiatiques qui, elles, se verraient imposer ces normes-là au même type que nous-mêmes. Mais je crois que la monnaie demain serait donc le dollar, et il n'y aurait plus de projet européen, et la construction européenne que nous voulons modifier dans un sens plus social, plus écologique, plus démocratique, eh bien, ce serait la fin de cela, et avec des mécanismes dont on nous répondrait en permanence ce qu'on répond aujourd'hui aux Grecs. Le peuple grec a choisi un gouvernement, on lui dit en permanence, on s'en fout, vous devez appliquer les traités. C'est les traités qu'il faut appliquer. Et eux, ils disent, mais non, c'est de cela que nous voulons sortir. Eh bien, on s'en fout. C'est quand même ça que vous devez accepter. Donc, vous devez accepter ce qui était prévu précédemment. C'est ce qu'on nous imposerait demain.
On arrive petit à petit à la fin de cette émission. Vous allez devoir les uns les autres participer, voter, donner un avis, certes encore consultatif, comme l'a dit Gérard Després. C'est l'esquisse de l'ébauche d'un traité, on n'en est pas encore là. Vous allez voter quoi? Vous allez donner quitus ou pas ce que vous connaissez déjà de ce traité transatlantique? Petit tour de table, Gérard Després pour les libéraux?
Je voterai en tenant compte, à la fin, quand les négociations seront terminées, en tenant compte des balises rouges que j'ai indiquées, et je vous en ai indiqué deux. Un, le mode de règlement des conflits, et la nature de l'organe de coopération des normes qu'on envisage.
On ne sait pas ce que Gérard Deprez votera en juin avec Denis Jadot.
Sur la résolution du Parlement européen, moi-même, je ne sais pas, je suis parti de la négociation. On a négocié toute cette semaine, on va continuer à négocier la semaine prochaine. Il y a eu 900 amendements qui ont été déposés, donc entre groupes politiques, on essaye de voir le meilleur équilibre. Et c'est vrai que ce qui est très important aujourd'hui, c'est pas que le Parlement européen fasse le béni oui-oui avec la Commission en disant « c'est très bien ce que vous faites, allez-y », c'est que le Parlement européen pose les jalons du traité transatlantique.
Alors, Guillaume Ballas, les lignes rouges sont franchies ou pas déjà en juin?
Soit ça sera un vote, pour ma part, de conviction. Parce que le travail n'aura pas été fait, pour que le Parlement européen pose des lignes rouges suffisantes. Soit le travail aura été fait et à un moment, un compromis provisoire peut-être posé pour dire que le Parlement européen joue tout son rôle en posant ses lignes rouges. Je suis pas sûr qu'on y soit totalement. Et j'invite fortement les sociaux-démocrates européens à voir très clairement les enjeux et notamment sur la question de l'ISDS, avoir une position claire.
Patrick, d'un mot en juin.
S'il y a un compromis qui fait des pas, il faudra en prendre acte. Mais moi, j'ai du mal à voter pour un texte, pour un traité, même un traité light.
Merci. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe à Bruxelles, ici au Parlement européen. Technique à Bruxelles, Christian Backers. Réalisation à Paris, Guillaume Munier. Sur la page de l'émission via RFI.fr et les applications mobiles de RFI, vous pourrez réécouter ce Carrefour de l'Europe. On reste en contact avec les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Bruxelles, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.